Bonjour à vous toutes et vous tous, c'est Clotilde Seille en votre compagnie. Nous sommes vendredi et c'est l'heure du National. Vous le savez maintenant, cette émission-là se compose d'extraits que vous avez peut-être adorés cette semaine ou que vous avez peut-être manqué cette semaine et on pensait que c'était dommage, surtout que ces sujets sont d'intérêt général. On parle d'intérêts canadiens, d'intérêts internationaux. Bref, il ne fallait pas manquer ça. Alors, le premier sujet, on retourne lundi dernier, c'était le 29 novembre. Je remplaçais d'ailleurs l'ami Benoît Racette à l'émission Accès Libre et je recevais entre autres France Geoffroy, qui est une danseuse. Elle vit en fauteuil roulant, elle est danseuse, elle est professeure, elle est fondatrice de la compagnie Corpuscule. Ça vous donne envie de danser, Madame Geoffroy? Hein?
Ben oui, c'est festif.
C'est cette festif, musique. Hein, cette musique-là.
Ça tombe bien avec la température qu'on a.
Ah oui, écoutez, là pour l'instant, il ne faut même plus m'en parler. Comme on n'a pas de fenêtre ici dans le studio, je ne sais plus rien. Madame Geoffroy, France Geoffroy. Vous êtes aussi lauréate du prix à part entière 2016 dans la catégorie individu. J'ai vu les images hier. Vous êtes la fondatrice de la compagnie québécoise Corpuscule Danse. Vous êtes une pionnière de la danse intégrée au Québec. Et je voudrais... est-ce que je vous pose la question et vous allez nous raconter, vous êtes devenue tétraplégique à la suite d'un accident, hein?
Oui, en fait, en 1991, donc oui. Ça fait déjà 25 ans, âgée de 17 ans, j'ai eu un accident de plongeon. Donc, j'ai plongé tout simplement au bout d'un quai et il n'y avait pas assez profond d'eau. Et j'ai heurté ma tête au fond du lac et il s'en est suivi une section de la moelle épinière et voilà, une tétraplégie.
Est-ce que vous dansiez déjà quand vous étiez jeune?
À l'époque, à 17 ans, je venais de passer des auditions au Collège Montmorency en danse et j'avais été acceptée et je m'apprêtais à commencer une formation. En fait, l'accident, c'est le 17 août et ma formation devait commencer le 22 août.
Les plongeons, hein, Dieu sait si on en parle maintenant souvent aussi à nos jeunes en disant « attention, attention, ça n'arrive pas qu'aux autres ».
Ça n'arrive pas qu'aux autres et malheureusement, on s'envoie une des parties les plus vulnérables. Je veux dire, le cou, c'est, il n'y a pas d'organe qui protège rien. Puis souvent, ben, on est téméraire quand on est jeune et on se lance et oui. On ne sait pas les conséquences. Et même moi, quand je parle de mon accident et que je dis que c'est un accident de plongeon, les gens sont toujours un peu étonnés.
Ah oui?
Oui, ils pensent facilement au sport ou à la vitesse en auto, tout
oui,
ça, mais
oui.
Pas
non,
les
plongeons. C'est vrai, on ne pense pas à ça. Et téméraire, vous l'êtes resté. Hein? C'est pas cet accident-là qui vous a arrêté. Vous êtes une personne volontaire et vous avez décidé... Bon, vous êtes maintenant une spécialiste de ce qu'on appelle la danse intégrée, mais comment vous en êtes venue là? Comment tout d'un coup, vous en êtes venue dans votre fauteuil, quoi, à commencer à danser en écoutant de la musique? Comment ça s'est passé?
En fait, ça s'est fait par deux voies. La première, c'est qu'en racontant mon histoire tout bonnement à un réalisateur, que je lui disais, comme je vous ai un peu raconté à vous, mon rêve était de devenir danseuse et j'ai eu un accident. Je pense que cette histoire a frappé l'imaginaire. Les gens trouvaient que c'était peut-être une histoire qu'il fallait aller au bout de cette histoire-là. Alors, j'ai participé dans une émission de télé qui s'appelait « Jeune autrement ». Et c'est là que j'ai été faire une entrevue au Studio 303, qui est un lieu culte de la danse ici à Montréal. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Valerie Dean, qui a été la première personne, en fait, qui a vu en moi un talent ou un âme de danseuse et qui m'a pris sous son aile par la suite. Et j'ai commencé des cours avec elle. Autre voix qui m'a amenée à croire que c'était possible, c'est Céleste Dandaker, qui est une femme extraordinaire, qui a fondé une compagnie de danse en Angleterre, qui est la compagnie Kenduko. Cette femme-là avait une tétraplégie comme moi. Elle a eu un accident sur scène et sa carrière a parti en flèche suite à son accident. Je pense qu'elle avait déjà la notoriété en tant que danseuse. Alors, la fondation de sa compagnie s'est faite en 91 et c'est devenu une compagnie de renommée internationale. Alors, ces deux événements-là, souvent je dis, je suis arrivée dans l'histoire au bon moment.
Ouais.
Si j'avais voulu enseigner ou danser peut-être dans les années 60-70, juste pénétrer le milieu de la danse de cette époque-là, tu sais, quand je parle de pénétrer le milieu de la danse, ouais. je fais référence au classique
oui.
ou à des types de danse. On imagine mal la danse qui ne passe pas par les pieds, n'est-ce
Bien
pas?
Bien sûr.
Donc, je pense que c'était vraiment un bon moment pour moi. En plus, j'étais au début de mon accident, fait que
oui.
ça m'a fait croire,
oui.
Ça m'a donné un objectif de vie.
Est-ce que vous avez pensé à un moment donné que ça pourrait aussi être possible comme réadaptation?
En fait, pour moi, la danse, c'est vraiment un art
À
part
oui.
entière. Et c'est sûr que souvent, on me demande, est-ce que c'est de l'art thérapie? Qu'est-ce que tu fais au juste? C'est sûr que ça a une incidence positive. Moi, je pense qu'à partir du moment quand on est dans l'action, puis si on pratique quelque chose de physique,
Oui.
veut, veut pas, il y a des bienfaits,
Oui.
autant physiques que psychologiques,
Exactement.
Comme on disait avec le
Oui.
soccer.
Oui.
Mais pour
ne
moi...
serait-ce que l'aspect créatif, quoi.
Absolument. Mais pour moi, c'était vraiment... Bon, l'idée de me réaliser en tant qu'artiste, ce que je fais et que j'ai fait, j'en suis à ma 9e production, puis j'ai travaillé avec des grands chorégraphes du Québec, mais à un moment donné, plus tardivement dans mon processus, j'ai eu envie de redonner au prochain, parce que, veux, veux pas, on crée le rêve.
Oui.
Les gens viennent nous voir danser, et ensuite de ça, ils font, bien, si tu danses, comment moi je peux danser?
C'est ça.
Alors,
Alors, vous êtes professeur.
Absolument. J'enseigne depuis 2002. J'ai enseigné d'abord aux adultes pendant plusieurs années, monté beaucoup de spectacles avec mon volet enseignement. Et depuis environ 5 ans maintenant, j'enseigne aux enfants, aux adolescents. J'ai d'ailleurs créé un gros, gros spectacle le 3 juin dernier. On
Oui.
l'a présenté 2 soirs qui s'appelait « Raconte-moi un souvenir ». Et ça mettait en scène 37 personnes avec et sans handicap. Et ce qui est important de dire aussi dans ma pratique, ce n'est pas exclusivement de la danse qui s'adresse aux personnes handicapées. Moi, ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse, c'est de mélanger les deux
Les deux,
univers.
absolument.
Parce que pour moi, de la vraie intégration, c'est ça.
Oui.
C'est bien ce qui se passe quand on met tous les gens dans une équipe de soccer spécialisée, puis des fois, on n'a pas le choix.
Non.
Là, je dis soccer, j'aurais pu
Oui,
nommer
non, non, je comprends
n'importe
tout à
quel
fait. Je
autre
comprends.
type de sport
D'activité,
ou
oui.
d'activité. Mais moi, ce qui m'a vraiment accrochée quand je suis allée en Angleterre, parce que j'ai
Oui.
vraiment calqué, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça, la danse
Non.
intégrée. Ça existe depuis les années 80 aux États-Unis puis en Angleterre. Moi, c'est ce qui m'a rejoint parce que moi, je suis une personne handicapée, mais accidentée.
Ouais.
Alors, je n'étais pas dans ce milieu-là depuis
Du tout, non, c'est
l'enfance.
ça.
Et au départ, il y a beaucoup de déni, de rejet de ce milieu-là. Alors, moi, ça m'a permis de me rapprocher autant du milieu des personnes handicapées, puis de le faire autrement, puis aussi d'avoir la portion là, de pouvoir, que ça s'adresse à monsieur, madame, tout le
Et
monde.
c'est la raison aussi pour laquelle vous avez dansé avec des grands chorégraphes ici. Votre travail, est-ce qu'il est reconnu par ces gens-là,
Oui,
beaucoup?
mon travail est reconnu par les pairs. Donc,
Oui.
J'ai des subventions du Conseil des arts du Canada,
Bon.
Du Conseil des arts et des lettres
Alléluia.
Du Québec. Alléluia. J'en ai, ça ne veut pas dire qu'ils sont récurrentes et que c'est l'abondance. Chaque projet demande des nouvelles démarches.
Bien sûr.
Mais oui, il y a une reconnaissance par les pairs.
Rapidement, quels sont les projets, Madame
Les
Geoffroy?
projets, dans l'immédiat, je travaille sur une plateforme. En fait, il y a une plateforme web qui existe qui s'appelle Quadriptyque. C'est une recherche qui vise avec 4 chorégraphes québécois, dont Dave Saint-Pierre, Déborah Donne, Sarah-Ève Grant et Lucie Grégoire.
OK.
Ça comprend 7 interprètes, dont 4 avec un handicap. Et on fait des périodes de recherche de 50 heures. Il y en a une qui est passée à l'automne avec Déborah Donne. Et il y en a d'autres qui viendront au printemps. Et c'est l'idée de de créer une plateforme pour parler de la danse intégrée, échanger avec le public, démystifier cette danse-là, qui est encore malheureusement méconnue, et on sait que le tabou du handicap au Québec est quand même assez important. Alors, c'est vraiment pour amener le public, autant le public de la danse que le public du milieu du handicap, que complètement les gens néophytes, à mieux comprendre.
À mieux comprendre.
Et à apprécier et à...
Oui.
Et à poursuivre justement la reconnaissance.
J'invite, si vous me le permettez, France Geoffroy, j'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à aller voir déjà, avant même d'aller dans une salle pour votre prochaine production, faites comme moi, allez sur corpusculedanse.com, allez voir les images, allez voir, c'est de toute beauté de vous voir danser, France, vraiment.
Et j'inviterais aussi les gens à aller sur la plateforme Quadriptyque parce que c'est un projet en soi.
D'accord.
Donc c'est quadriptyque.com. Et à voir aussi d'autres interprètes avec un handicap parce que maintenant il y a une relève, dont Maxime Despomerleau, qui est dans le projet.
Oui!
Et on a aussi Roya Orsini, qui est une Australienne, et Marie-Hélène Bellavance, et toute une brochette d'artistes aussi fantastiques les uns que les autres.
France Geoffroy, à vous aussi, bravo pour ce prix à part entière.
Merci beaucoup.
Merci. Tous les moyens sont bons pour contrer l'Alzheimer. On continue à en chercher de ces moyens-là. Et là, nous avons peut-être trouvé une piste. Et l'équipe de C'est bon pour la santé, animée par Marianne Paquette, a joint en France un professeur, le professeur Philippe Robert. Il est directeur du laboratoire Centre Mémoire CHU Université de Nice, Sophia Antipolis. Et il s'agit là d'un jeu vidéo pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. On va tout savoir.
Philippe Robert, bonjour.
Oui, bonjour madame. Vous allez bien?
Oui, très bien. Vous-même?
Parfaitement.
Est-ce qu'il fait beau à Nice? Faites-nous rêver un peu, oui. Philippe Robert.
Ouais, je vous fais rêver, mais il fait nuit noire ici.
Oui, bien sûr.
Je ne vois qu'un ciel étoilé.
Mais il fait chaud.
Non, il ne fait pas chaud. Ça dépend, parce que pour vous, si vous voulez, c'est chaud, mais pour nous, c'est froid.
Ah, voilà.
Faire, 10 degrés. Voilà.
Décalage de degrés et bien sûr d'heure, Philippe Robert, mais on est là plutôt pour parler de ce jeu vidéo qui pourrait venir en aide aux personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, X-Torp, donc ce jeu que vous avez créé, qui s'adresse à des gens qui vivent avec une atteinte plutôt légère de la maladie. Quels étaient les objectifs au départ de ce jeu-là pour aider les personnes qui vivent avec cette maladie?
Alors, c'est pour la maladie d'Alzheimer et ce qu'on appelle les pathologies apparentées ou associées, parce qu'il n'y a pas seulement le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. L'objectif, eh bien, c'était de, dans un même jeu, qu'on peut appeler exergame, hein, à la fois utiliser de l'activité physique et en même temps de proposer de l'activité cognitive à des patients qui, effectivement, comme vous le dites, sont à un stade de troubles de la mémoire et des cognitions légers.
Mmh. Pour que le jeu rejoigne les personnes qui vivent avec cette maladie, ils doivent, j'imagine, Philippe Robert, avoir eu un premier diagnostic.
Exactement. Et la façon dont on l'a utilisé dans notre première recherche et puis maintenant en pratique courante, c'est des personnes qui viennent à notre centre mémoire et pour lesquelles, eh bien, après avoir fait un bilan, on leur propose cette activité. Donc nous l'avons utilisée jusqu'à présent, et j'insiste, c'est dans l'article scientifique et dans les prochains, essentiellement dans un milieu institutionnel, hein, comme on dit en France, hein, c'est consultation mémoire.
Encore faut-il qu'il y ait eu ce diagnostic, donc la nécessité d'avoir un diagnostic plutôt précoce, puisque le jeu semble être indiqué pour des personnes qui ont une atteinte légère?
Oui, alors le diagnostic, ben, c'est en France, vous savez, on a un réseau de 500 consultations mémoire et de 27 centres mémoire de ressources et de recherche, plus les spécialistes libéraux. Et leur travail est effectivement d'essayer de proposer le diagnostic le plus précoce possible en utilisant des éléments cliniques, mais aussi des éléments biologiques ou d'imagerie cérébrale. Mmh. Et c'est ce qu'on fait dans notre centre.
Avec X-Torp, on se plonge, du moins dans mon imaginaire, là, dans un sous-marin. On devient le navigateur de cet engin. C'est un jeu de stratégie aussi qui mêle de la survie, qui mêle des batailles navales. C'est assez épique. Il y a une musique assez dramatique aussi, assez en vente, qui permettent, comme vous le disiez, Philippe Robert, la coordination, mais aussi plein d'autres choses. Parlez-nous un petit peu de ce jeu-là, comment il a été conçu et comment il peut plaire aux personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer.
Alors, ben, c'est un jeu c'est une quête. Hein. Vous êtes dans un sous-marin et vous avancez en marchant. Si vous voulez tourner à droite, vous levez le bras droit. Si vous voulez tourner à gauche, hein, et ainsi de suite. Et donc, vous allez d'île en île. Et donc, il y a cette activité physique. Quand vous arrivez dans une île, on vous propose des missions. Et en fait, ces missions, comme on trouve hein, dans les jeux sérieux, hein, eh bien, c'est des missions qui sont basées sur des tests ou des exercices que nous, on faisait hein, habituellement avec des personnes qui viennent, qui ont des troubles de l'attention-concentration. Mais cette fois-ci, c'est plus rigolo. Oui. Hein, et c'est lié à ce thème. J'insiste aussi pour dire, parce que vous avez parlé beaucoup de maladie d'Alzheimer et du diagnostic, il faut bien sûr aussi que les personnes hein, n'aient pas de troubles de l'équilibre pour faire ce jeu. Hein, parce qu'on ne veut pas aussi les mettre en difficulté. L'objectif d'un jeu, c'est de prendre du fun, hein, d'être, de faire quelque chose d'agréable, et tout en faisant travailler son cerveau, son activité physique. Donc, on évite l'échec.
Oui, mais le jeu peut aider à freiner la maladie, Philippe Robert.
Les résultats que nous avons eus et qui ont été publiés montrent que ce jeu améliore hein, l'activité physique sur une période de 2 mois, améliore les performances cognitives et motive les gens. Maintenant, ralentir la maladie, moi je ne peux pas l'affirmer au jour d'aujourd'hui. Vous savez, le ralentissement de la maladie, c'est un processus biologique. Je ne suis pas certain qu'un simple jeu puisse le faire, mais il contribue hein, à justement la stabilisation des personnes.
Oui. Est-ce que vous avez pu, au sein même du CHU Université de Nice, Sophia Antipolis, au centre mémoire que vous dirigez, Philippe Robert, faire des tests sur des usagers?
Oui, tout à fait. Ah, donc, il y a une petite vidéo fun là, qui est sur le site hein, de l'équipe là, Innovation Alzheimer. Hein, et vous trouverez sur Asgame donc, la façon dont on a fait cette vidéo. Elle a été faite pour l'article scientifique. On a hein, fait une étude hein, qui a été le proof of concept pour montrer qu'effectivement, hein, ça marchait. Et maintenant, grande nouveauté, eh bien, depuis, on l'utilise tous les vendredis. On a mis en place une consultation de stimulation, hein, où on l'utilise pour les patients qui viennent en dehors de toute recherche, parce que on est certain que ça a une efficacité quand on choisit bien les personnes.
Ouais. Est-ce que vous avez pu obtenir des commentaires des usagers, à savoir leur impression de X-Torp?
Alors dans l'étude, hein, on utilisait des questionnaires systématiques, hein, et notamment des questionnaires de motivation. Et là, ben, effectivement, les gens étaient très motivés, même après 2 mois d'utilisation. Et puis aussi les questionnaires de faisabilité. Vous savez, quand on met en place, on utilise ces nouvelles technologies hein, dans la santé, il est toujours important de savoir si c'est faisable, si ça ne gêne pas les personnes plus que d'autres. Et là, on a eu toujours des réponses positives. Ouais. Après, je pourrais vous raconter des petites histoires, mais c'est des histoires de cas cliniques, c'est les personnes qui ne veulent pas arrêter. Mais ça, on le trouve avec toutes les thérapeutiques, vous savez, hein, que quelqu'un qui est dans un groupe de réminiscence, eh bien, là aussi, il n'aura pas envie d'arrêter. Mais ça montre bien que ce type de technique utilisant les jeux sérieux, eh bien, ça peut être un élément thérapeutique.
Oui. Ce que je trouve intéressant avec ce jeu et avec les recherches qui ont mené à la création de X-Torp, c'est qu'on revient à la base, c'est-à-dire bouger, l'activité physique, demeurer mobile, c'est ces réflexions qui ont mené vos recherches, Philippe Robert, aussi?
Oui, tout à fait. Il y a de très, très nombreux travaux qui montrent que l'activité physique, marcher même dans les rues de Québec quand il fait froid une demi-heure par jour, c'est quelque chose qui est actif, qui est important pour l'oxygénation cérébrale et qui contribue à mieux vieillir. Donc là, c'est simplement l'appliquer dans un exercice qui est plus adapté à des patients qui sont détériorés et qui peut être fait donc à l'intérieur.
Ouais. Et il y a tout aussi cet objectif du tissu social, de garder le lien social. Et je me demandais, Philippe Robert, comment un jeu vidéo peut favoriser ça? Parce qu'on le sait, de conserver ce lien-là de qualité en lien avec la société, avec notre environnement, notre communauté, c'est sain pour les personnes âgées, notamment pour ceux qui présentent des maladies qui peuvent être neurodégénératives. Mais un jeu vidéo, on a l'impression que c'est nous avec l'écran et que ça ne va pas nécessairement favoriser ça.
Oui, mais ce que je vous ai dit au départ, c'est que pour le moment, on ne l'utilise qu'en institution.
Ouais,
c'est-à-dire
voilà.
que la personne n'est pas seule avec son jeu, mais il y a un thérapeute. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que bien souvent, nos patients viennent accompagnés de leur époux, de leur épouse, et ils veulent assister aussi. Et donc, pendant cette période-là, on joue au sous-marin, on tchatche, on discute. Donc ça, c'est très important. Et alors, un deuxième aspect qu'on peut utiliser aussi dans un jeu comme Xtorp, c'est de l'utiliser en réseau, c'est-à-dire que dans le service, eh bien, on peut mettre deux kinettes, deux écrans différents et deux personnes peuvent jouer ensemble. Mais là aussi, il faut qu'il y ait un thérapeute.
Oui, et on pourrait même jouer avec nos petits-enfants pour les personnes âgées.
Ah oui, ça c'est une très très bonne idée. Là, je sens ça vient bien de chez vous, c'est parfait. Très bonne idée, je vais la garder. Ah, vous savez qu'on va faire une nouvelle étude, là, on a justement l'accord du ministère aujourd'hui pour lancer une étude beaucoup plus grande sur une centaine de personnes, justement pour le tester à plus long terme, ce jeu, qui est un bon modèle, je pense, pour les gens aussi qui vivent en accueil de jour ou dans ce qu'on appelle des maisons de retraite. Ça peut être aussi utile.
Ouais. Est-ce que le jeu est disponible au Québec, Philippe?
Le jeu est disponible sur une plateforme qui s'appelle, je crois, Curapi. Il est en accès libre. Alors, si le Québec peut accéder au web, je pense qu'il pourra l'utiliser. Mm-hmm. Il est encore dans une version bêta et je pense qu'une nouvelle version va prochainement sortir, justement, à la suite. Mais pour le moment, c'est en accès libre.
Oui, c'est ça. C'est gratuit. C'est formidable.
Voilà.
Oui.
Voilà.
On mettra un petit lien parce que nous, on a entendu parler de vous via une revue qui est assez connue ici, la revue Le Bel Âge, où on peut voir un extrait de Xtorp et qui parle de ce jeu-là. Et ça peut être, je pense, un bel outil pour des gens qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres atteintes neurologiques et leur famille, bien sûr, parce qu'on souhaite le bien-être, le mieux-être de nos proches. Philippe Robert, vous êtes directeur du laboratoire Centre Mémoire du CHU Université de Nice, Sophia Antipolis. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler.
Merci.
Et bonne nuit,
bonne
Philippe.
Soirée.
Au revoir.
Bonne journée. Au revoir.
Il y a des lettres plus touchantes que d'autres et il y a des gens pour les écrire plus touchants que d'autres. Et il y a des situations qui sont terriblement touchantes comme celle-ci. Par actualité régionale, une seule nouvelle, une seule actualité qui concerne la disparition de Suzanne Nadeau-Wiesel. C'est peut-être un nom qui ne vous dit rien. C'est Sonia Bolduc qui raconte dans La Tribune. Suzanne Nadeau-Wiesel est décédée lundi matin, atteinte de la sclérose latérale amyotrophique, la SLA. La cherbrookoise de 61 ans a reçu au CIUS de l'Estrichus l'aide médicale à mourir qu'elle souhaitait recevoir, afin d'éviter des souffrances inutiles pour elle et pour sa famille. Infirmière à la retraite, ayant longuement œuvré en soins palliatifs, Suzanne Nadeau-Wiesel connaissait bien l'issue fatale de sa maladie diagnostiquée en août 2014. Suzanne a ainsi décidé, bien librement et tout aussi généreusement, de partager le dernier droit de son bout de chemin. Elle avait perdu l'usage de la parole depuis un moment déjà, alors, comme nous l'avions fait pour des entrevues ou des échanges précédents, nous dit la journaliste Sonia Bolduc, je lui ai fait parvenir mes questions par écrit. Le dialogue est simple, il aborde la vie, la mort, l'angoisse du départ et l'avenir sans elle. « Je me tais », dit Madame Bolduc, « je la salue ». Voici ce qu'écrit Madame Suzanne Nadeau-Wiesel. Tout au long de l'été, mon corps a subi les ravages de la maladie. La SLA est définitivement une maladie qui ne pardonne pas. Une question continuait à me hanter. Comment est-ce que je ferais pour me rendre au temps des fêtes? Je m'étais fixé ce but pour ma famille. Il fallait que je vive le plus longtemps possible pour eux, pour qu'ils fassent leur deuil pleinement, pour qu'ils apprennent de mon expérience. J'ai fait part de cette préoccupation à Jean, mon conjoint. Il m'a regardé d'un air surpris la première fois et n'a rien dit. Deux mois plus tard, lorsque je lui répète à nouveau que je ne savais pas comment je tiendrais le coup pour eux, il s'est effondré. Et là, c'est moi qui étais surprise. Entrelacés, nous avons mis à jour nos états d'âme. Jean continuait à me soutenir dans mes décisions. De mon côté, prenait place une urgence de mettre fin à mes souffrances. Je vivotais. Je n'avais plus l'énergie pour de nombreux projets. Je me sentais de plus en plus prisonnière de mon corps. Je suis devenue témoin de la vie plutôt que participante, un rôle que j'ai eu bien du mal à accueillir. La vie que je trouvais jadis si belle devenait de plus en plus laide. Je n'étais pas dépressive, j'étais réaliste. Je pesais les pour et les contre. Je vivais dans la vérité qui était la mienne. Personne ne peut comprendre ce qu'une autre personne vit. C'est pourquoi, après mûre réflexion et discussion avec ma famille, j'ai pris l'ultime décision de demander l'aide médicale à mourir. Il y a de quoi de surréel à connaître d'avance l'heure et la date de sa mort. Foqué même. Mais quelle délivrance, quel soulagement. Certes, malgré les discussions, le choc a envahi ma famille les premières 24 heures de l'annonce. Rien ne prépare assez les proches pour une telle décision. Après ma mort, la terre tournera encore. À mes proches, je leur souhaite de profiter de la vie au maximum. J'espère qu'ils iront au bout de leurs rêves. Chacun trouvera son essence et fera cette petite différence qui améliorera ce monde dans lequel nous vivons. Aimer et être aimé pour qui on est, sans discrimination, voilà le secret d'un monde meilleur. Je suis en paix avec mes démarches. J'aurais bien aimé poursuivre mon combat pour améliorer les soins de fin de vie. Que j'en ai donc long à dire sur le sujet. Dommage, il y a tant à faire au niveau de nos soins palliatifs, de mourir dans la dignité, du support offert aux aidants naturels et des soins à domicile. Tant qu'on ne sera pas assuré de tous, sans exception, avoir droit à une mort dans la dignité où, et comme on le désire, il y aura du travail à faire. J'ose espérer avoir fait réfléchir les gens. J'aimerais même penser que j'ai peut-être fait une petite différence dans la vie de certains. Je passe le flambeau à vous tous qui devrez un jour à votre tour faire face à la mort. Je remercie ceux qui m'ont suivi au travers mon blog, car vous m'avez donné des ailes. Surtout, j'espère avoir renseigné les gens sur la maladie de la SLA. Plus elle sera connue, plus nous parviendrons à trouver un traitement. Je garde espoir que les citoyens et les médias de l'Estrie participeront à la marche de la SLA chaque année. Ma mission sur Terre est terminée.
C'était extrait des paractualités du 30 novembre 2016. Dans quelques secondes, le National se poursuit. À nouveau à l'émission Le National, animée pour vous par Clotilde Seille sur les ondes de Canal M. Lorsqu'elle est arrivée ici, elle a commencé par me dire dans le couloir, vous savez, la vieillesse, personne n'en parle. Ou ceux qui en parlent, ce sont des jeunes et des gens qui ne sont pas vieux. Et c'est Jeannette Bertrand, bien sûr, qui s'exprime ainsi. Elle qui a sorti le livre La vieillesse par une vraie vieille. Et elle nous en parlait le 1er décembre dernier à l'émission Des livres plein les oreilles. Alors oui, c'est Jeannette Bertrand. Et Jeannette, vous êtes venue, je m'attendais à ce qu'elle me dise, Jeannette Bertrand, ben écoutez, ça va me faire plaisir, mais est-ce qu'on peut faire ça par téléphone? Et c'est fantastique parce que finalement, vous vous êtes déplacée pour nous présenter l'un de vos livres le plus récent, qui s'appelle « La vieillesse par une vraie vieille ».
Oui.
Un livre qu'on devrait tous savoir, je pense maintenant, dans nos bibliothèques, sur nos tables de chevet ou dans nos oreilles. Pour en quelque sorte, peut-être pas nous rassurer sur la vieillesse, mais oui.
Oui, nous rassurer.
Nous rassurer parce que vous mettez le doigt sur ce qu'est la vieillesse, sans fioriture, sans fantaisie. Voilà les enfants, c'est à ça que ça ressemble.
C'est ça.
Et c'est vraiment ce que vous avez voulu faire. Pourquoi?
Parce que moi, j'ai beaucoup appris dans les livres Et je cherchais les livres quand je me suis vue vieillir. L'âge, quand ma fille aînée a eu 68 ans, 66 ans, je ne sais plus trop. J'ai dit, ça, bon, je dois être vieille, c'est comme rien. C'est ma fille à cet âge-là. Alors, j'ai cherché des solutions. J'ai cherché des moyens de rendre ma vieillesse plus calme, plus riche. Et puis, j'en ai pas trouvé. Alors, j'ai dit, je vais en écrire un sur ce que je pense, moi, de la vieillesse, comment j'essaie de vivre ma vieillesse, et ça marche. Je suis de bonne humeur et j'ai une santé, non, mais et ça part, c'est pas ça. Ma priorité n'est pas ma maladie.
Non.
Ma priorité, c'est ma vie. Je suis vivante.
Au présent.
Je suis vivante. Mes amies de cœur sont mortes. Moi, je suis vivante. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces années-là? Ou bien, je grogne, je chicane, je dis, si ça peut finir. Ou bien, si j'en profite. Alors, j'ai décidé d'être une grande profiteuse et d'en faire profiter les autres.
Sans compter, Jeannette Bertrand, que tout au long de votre vie, vous avez été celle sur laquelle on a pu compter pour lever des tabous.
Oui.
Énormément. Hein,
Dire la vérité.
Dire la vérité. Et oui, mais même aussi lever des tabous. Oui. Je veux dire, parler de choses dont on n'avait pas l'habitude, entre autres à la télévision, des sujets qu'on n'avait pas l'habitude d'aborder. Alors je me disais, après tout, s'il y en avait encore un seul qui lui restait à traiter, c'est bien la vieillesse. Mais remarquez, l'avenir nous dira que non, parce que vous avez d'autres projets dont on ne parlera pas tout de suite.
mais c'est que, là, on dirait que dans cette... qu'il n'y en a que pour les jeunes.
Oui.
Alors qu'il y a plus de vieux en ce moment au Québec qu'il y a de jeunes. Écoutez, il y a 60... comment est-ce qu'on appelle ça? Regarde la mémoire des vieux, là. Des gérontologues.
Oui.
Il y en a 60. Il y a 600 pédiatres pour les enfants. Alors donc, les vieux, c'est dans une société de consommation, c'est pour jeter. Nous en occupons pas. Ben moi, je veux brasser la cage. Je veux dire, oui, occupez-vous de nous autres, parce qu'on est important.
D'ailleurs, en page 60, vous posez une question tellement intéressante que je vais vous poser. Passera-t-on du siècle de la jeunesse au siècle de la vieillesse? Quand je vous écoute, on se demande, en tout cas. On n'est pas encore là.
C'est-à-dire plus... Quand les baby-boomers vont être vieux, ils ont entre 60 là, et 65. On est vieux à partir de 70, de nos jours. De 70, et on vit jusqu'à 100 ans. Il ne faut pas oublier qu'il y a 1800 centenaires au Québec en ce moment. 1800 centenaires au Québec. Et on me dit que les enfants qui naissent en ce moment vont vivre jusqu'à 120 ans. Alors, il va en avoir des vieux. Il va en avoir des vieux. Faut plus les mettre de côté. Faut que nous autres mêmes, on s'enlève du côté pour se remettre au centre.
Oui. Et puis, il y a surtout, dans ce livre-là, c'est que vous n'êtes pas une vieille ordinaire. Jeannette, je veux dire, dans le sens où vous êtes encore, bon, vous le dites à plusieurs reprises, souvent, vous avez été hyperactive, aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'active.
Oui, oui, c'est sûr que je suis quelqu'un de très, très actif, parce que je trouve que c'est comme ça que je garde mes neurones, ma tête, c'est comme ça que je garde ma tête. J'ai enseigné pendant 20 ans, c'est la première année où je n'enseigne pas cette année. Et alors, je me suis trouvée des gens à qui je donne des cours.
Parce que, entre autres, pour écrire des livres. Hein?
Oui, pour une espèce de mentorat. Je ne peux pas en prendre beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Et puis, je donne des cours. Je veux donner ce que j'ai.
Oui.
Je veux donner ce que j'ai.
Oui, oui. D'ailleurs, vous m'amenez à la page 48, parce que justement, c'est là qu'il est question de l'enseignement. Et là, je voudrais vous citer par rapport à l'enseignement. Parce que je me suis jurée à la sortie de mon école primaire, alors que j'étais parmi les élèves qui continuaient leurs études, d'apprendre et de transmettre mon savoir à celles qui n'avaient pas la chance d'étudier. Naïveté, orgueil, je me sentais l'âme d'un professeur. Le public avide de découvertes m'apprécie pour les messages que je sème ici et là, enfin, j'espère. Oui, mais les messages, c'est fatigant.
Oui, c'est fatigant, les messages. Mais il y a aussi Clotilde. qu'on n'a pas de modèle. On a des modèles de vieux, des fois, qu'on nous montre à la télévision, qui ont été maltraités, qui sont grabataires. On a peu de modèles à la télévision de femmes âgées et qui sont dynamiques et qui ont tout leur esprit. Ouais. Je pense à Leonard Cohen qui dit « I got all my marbles ». Ça se dit en anglais, j'ai tous mes marbres. En français, ça ne se dit pas. Mais c'est que les gens, il y en a beaucoup, moi je connais des femmes très ordinaires qui sont très intelligentes, qui connaissent tout là, de Trump, puis de Hillary Clinton, qui ont tout lu. Mais ils ont 90.
Mais oui.
Alors, tu sais, pourquoi? C'est sûr qu'il y en a 90 qui se font de l'Alzheimer, mais il y en a d'autres qui n'en font pas. Oui. L'Alzheimer, c'est une maladie dont tout le monde n'est pas atteint.
Non. Et ça aussi, vous le dites d'ailleurs à un moment donné, dans le livre, c'est que souvent, on parle de ce qui ne va pas. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien. Il y a encore plein de gens qui sont en amour à votre âge, comme vous d'ailleurs.
Mais oui, et c'est essentiel, une lettre extraordinaire d'une comédienne qui ne joue plus et qui me dit, j'ai 72 ans, je viens de tomber en amour avec un homme de 66. Et c'est vraiment, je ressens du désir, tout ça. Mais il faut en parler de ces cas-là. Et tous les gens pensent qu'ils vont finir par être Alzheimer. Mais pas du tout. C'est une maladie. On perd la mémoire. Et comme tout le monde, perd la
mémoire. Tout le monde.
Où est-ce qu'ils sont mes clés? Les noms propres, tout le monde a de la misère avec les noms propres. Nous autres, un peu plus. Encore plus.
D'ailleurs, en quelques lignes, à un moment donné, ce ne sont pas des lignes que j'avais soulignées, mais je m'en souviens très bien, vous décrivez très bien ce qui fait la différence entre la simple perte de mémoire et l'Alzheimer. Arrêtez de paniquer. Vous n'êtes pas Alzheimer.
C'est ça.
Mais vous rassurez comme ça beaucoup. Et vous m'avez tellement surprise, il y a une page, je ne pensais pas parler de ça tout de suite, mais c'est la page 110. Et là, je vais essayer de le dire sans aucune émotion, mais j'avais tellement l'impression... c'est une page que vous avez écrite, c'est la première fois, écrivez-vous, que je lis une description de la mort qui raconte exactement celle de mon père. Et c'était évidemment celle que moi j'ai vécue aussi avec le mien. Mais vous en parlez à la fois avec un détachement. Voilà, la réalité de la mort, c'est ça. Et vous parlez du dernier râle, et vous parlez de tout ce qu'on vit.
De l'euphorie qui arrive avant la mort, c'est scientifique. Là, ce que je dis, ça ne vient pas de moi, ça vient de Sherban Shriver, qui est mort d'un cancer du cerveau.
Du cerveau.
Mais c'est ça, on parle de la mort, oui, ça va arriver. Moi, je ne sais pas de quoi je vais mourir, mais je vais mourir, puis je m'y attends, puis c'est normal. Et c'est la seule justice en ce bon monde, c'est que tout le monde meurt. Les pauvres, les riches, tout le monde meurt.
Du coup,
les méchants et les bons.
Du coup, vous êtes ce que vous prétendez, une rebondisseuse de haut niveau.
Ah, je suis une rebondisseuse. S'il y avait vraiment, c'est ce que j'écris, s'il y avait vraiment une médaille d'or, je serais la grande rebondisseuse.
Alors, la valorisation, ce que vous valorisez beaucoup, dans votre vieillesse, Jeannette Bertrand, et vous en parlez beaucoup dans le livre, c'est le don de temps, donner du temps et le travail.
C'est ça.
Pour vous, c'est essentiel.
Le travail, tu sais, ne rien faire n'a jamais valorisé personne. Il faut se sentir valorisé dans la vie. Oui. En naissant, on veut. C'est mon jouet, c'est ma maman, c'est mon papa. On veut être valorisé, être reconnu. Et on n'est pas reconnu ailleurs que dans le travail, c'est comme ça.
Ou dans le
don de soi. Ou dans le don de soi. On peut être reconnu en étant une super arrière-grand-mère, en faisant du bénévolat, par exemple. Moi, j'avais un peu scandalisé quand je suis allée faire telle aide. Et j'avais un peu scandalisé le monsieur en lui disant, je ne viens pas pour aider, je viens pour me faire aider. Parce que je venais de divorcer et j'avais vraiment besoin de me faire aider. Et je suis allée faire du bénévolat. Et ça, c'est ça que ça a donné. Je me suis rendu compte qu'il y en avait des pires que moi.
Et sans compter que vous êtes quelqu'un, et vous le dites aussi dans ce livre, vous savez parler, vous savez écrire, vous savez, mais vous savez écouter.
Oui. Beaucoup. Ça, il faut apprendre à écouter. Et j'ai appris à Télède. J'ai appris à Télède, qui est des téléphones pour des gens qui veulent se suicider ou qui ont des idées suicidaires, ou tout simplement, ce sont des gens seuls qui appellent surtout.
Ouais. Et puis, vous nous faites sourire. Parfois, comme par exemple l'affaire « J'ai le choix, ou bien la peur de tomber me cloue au fauteuil, ou bien j'accepte le risque de tomber en vacant à mes occupations. J'ai choisi de vivre. Et tant pis si je me casse quelque chose, dites-vous. Quand je quitte mon bureau, mon rhumatologue me recommande « Ne tombez pas ». Et là, vous dites, bah oui, mais comme si on choisissait de tomber. Je fais attention, j'ai des chaussures aux semelles antidérapantes. Qu'est-ce que je peux faire de plus?
C'est ça.
Je ne suis ni une grande malade et ni une invalide. Je suis juste vieille et je suis fière de l'être. C'est la preuve que je suis en vie.
Exactement. Quand, tous les matins, je me lève et je dis ceci, que je suis chanceuse d'être vivante.
Oui, oui.
Que je suis chanceuse d'être vivante. Oui. Puis je regarde dehors, puis je... Alors là, la vie est belle parce que c'est un cadeau qui m'est donné. Mes amies de filles, elles sont toutes mortes.
Oui, Clara,
je suis la seule.
Ça, c'est ça. Mais par contre, on va rassurer tout le monde. Parce que là, je suis sûre qu'il y en a qui disent, là, comment ça m'énerve. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des fois... Mais évidemment.
Mais
D'abord, vous souffrez dans votre corps.
Oui.
Beaucoup. Bon, évidemment.
Beaucoup.
Et il y a même des matins où vous souffrez. C'est tellement bien écrit. Un matin où il ne fait pas beau, c'est un lundi. Mmh. Vous êtes au chalet avec votre amoureux, Donald. Mmh. Puis ce matin-là, pouf, vous n'avez pas envie. Mmh. Puis finalement, entre le moment où vous mettez le pied par terre, le corps endolori, comme tous les matins quand vous vous levez, jusqu'au petit déjeuner. Je me souviens plus ce qui se passe, mais il y a comme une idée.
C'est-à-dire que moi, ce que je crois beaucoup à la parole.
À la parole.
Je crois qu'il faut sortir nos frustrations. Il faut se trouver quelqu'un qui est capable de les prendre, par exemple. Alors, moi, je dis à Donald, qui est capable de les prendre, enfin, j'espère, je lui dis, coudonc, va me jeter au vidange. Va me jeter au vidange, je suis aussi bien. Je ne sers à rien, je ne suis pas bonne, je ne suis plus bonne. Bon. Puis là, j'ai tout dit. Puis il ne dit pas un mot. Puis il continue. Puis là, je dis, ça fait du bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait?
Alors,
c'est sûr que j'ai mes moments où je dis, pourquoi vivre encore? Mais c'est des moments qui sont courts.
Et il y a le bonheur, vous lui consacrez un chapitre. En disant, oui, je sais, le bonheur, c'est un sujet usé à la corde, vanté, chanté, ridiculisé depuis des siècles, un sujet quétaine, n'empêche. Vous dites que partager ce que je sais sur le bonheur est devenu ma raison de vivre.
Oui.
Mon but, surtout depuis que le cancer a attenté à ma vie, on s'en souviendra.
Oui, oui.
Ça remonte à il y a combien de temps, ça, maintenant, déjà?
Ça fait 6 ans, je pense.
Ça fait 6 ans.
Ça ou 10. Écoutez, je ne m'en souviens plus.
Moi, je pense que c'est plus 10 ans que 6.
C'est plus que 10 ans. Moi, je ne suis pas bonne d'une date, là, du tout. Alors, c'est plus que 10 ans. Puis c'est comme derrière moi. Puis s'il y a une récidive, il y aura une récidive. On prendra un moyen pour l'enlever. Puis si j'en meurs, bien, ce sera le temps de mourir.
Bon. Alors, les livres, parce qu'il nous reste quelques minutes. Je veux qu'on parle des livres, parce qu'il y a les vôtres, évidemment. Et vous savez qu'on a tout enregistré.
Je suis tellement contente d'apprendre ça.
Alors, Lit double, 1, 2 et 3. Ils sont là, les trois. La vieillesse par une vraie vieille, bien sûr, nous sommes en train d'en parler, Jeannette Bertrand.
Oui.
Ma vie en 3 actes.
Oui.
Et là aussi.
C'était mon premier.
Voilà. Et il y a aussi Le Cocon.
Oui. C'est un livre sur le suicide.
Voilà, qui a été enregistré. On a même vos recettes, Jeannette.
Non. Puis ils sont bonnes. Ils sont vraiment bonnes.
C'est vrai. Et puis enfin, on a le bien des miens aussi qui a été enregistré.
Oui.
Donc voyez-vous, on a vraiment tout. Mais il n'y a pas que vos livres. Chez vous, là, il y en a partout des bouquins.
Ah oui.
Vous aimez ça, hein?
Oui. C'est-à-dire que quand je suis partie de la maison et que je suis arrivée dans un petit appartement, c'est sûr qu'il a fallu que j'en donne. Alors, je veux que d'autres profitent. Alors, je les envoie à des maisons pour femmes, lire un bon livre quand on est dans le malheur. Bon, je les prête beaucoup, je les passe à mes enfants, mais quand j'en ai trop, je les envoie dans des maisons pour femmes.
Mais donc, vous en avez toujours plusieurs ouverts en même temps?
Oui. Oui, et puis, à part ça, je suis comme une alcoolique. Et il faut que j'ai ma caisse de bière à côté. Non, ma caisse de livres. J'ai les livres que peut-être que... Puis là, chaque année à Noël, je demande à mes enfants, puis à mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, je leur fais ma liste de livres. Et c'est des livres que je vais avoir parce que c'est de l'argent en banque. C'est du savoir en banque. C'est pas de l'argent. Et je suis abonnée à une librairie en plus.
Ah oui.
À une bibliothèque.
Oui.
Je vais dans les librairies. Alors imaginez si je lis.
Et vous écrivez encore beaucoup.
Et j'écris beaucoup encore. Oui,
Anne tout. Sylvestre a déjà même écrit une chanson qui s'appelle Écrire pour ne pas mourir.
Hein. Exactement.
Et vous avez écrit Écrire pour continuer. Attendez, pour vivre simplement.
Quoi. Écrire pour vivre.
Pour vivre, oui, c'est écrire. Ça. Exactement.
Si on savait à quel point c'est bon, parce qu'on attend toujours d'avoir le talent d'écrire pour écrire, mais juste prendre ses pensées d'aujourd'hui et les écrire, puis après ça les relire, c'est extraordinaire comme c'est thérapeutique. Les écrire, bon, j'écris pas sur moi, mais là, c'est un spécial, là, par une vraie vieille, là, oui, c'est moi la vraie vieille, mais moi, je souhaite à tous les gens de prendre un crayon, un papier, puis d'écrire ce qu'ils ressentent.
Jeannette Bertrand, la dernière page du livre, page 302, avant les remerciements, est consacrée à vos projets quand même, une page de projet quand même.
Oui.
Il nous reste une minute.
Alors, quand on n'a pas de projet, Clotilde.
Oui.
On est vieux.
On est foutu, quoi.
On est foutu. Il faut avoir un projet aussi fou qu'il puisse être, aussi simple qu'il puisse être. Mon projet, aller à Québec. Mon projet, aller à rue Sainte-Catherine. Bon, mais un projet. Il faut un projet.
Alors, le prochain sujet, le prochain tabou que vous allez lever.
Le prochain tabou, ça va être un peu comme avec un grand A que j'ai fait. Je prends quelque chose que je ne comprends pas et je vais le décortiquer pour comprendre. Et le faire comprendre aux autres,
et
c'est la bisexualité. Pourquoi vous riez?
Parce que je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique. Jeannette Bertrand, oui. Il nous reste 20 secondes pour...
Merci.
On va
merci.
Se dire au revoir. Mais merci à vous.
Merci.
Et merci pour toutes les personnes âgées qui vont liser ce livre. Offrez-le à Noël. Voilà, le cadeau de Noël, c'est le livre de Jeannette Bertrand, La vieillesse par une vraie vieille.
Commencer jusqu'à 50 ans. Avant 50 ans, c'est trop de bonheur.
Ah, chère Jeannette, 91 ans et demi, hein, quand même. Par actualité du 29 novembre dernier, il y avait cette actualité déroutante, confondante, qui nous apprenait qu'une inquiétante augmentation du nombre des victimes de mines antipersonnelles et de restes d'explosifs de guerre après 15 ans de baisse est en augmentation. Et j'ai eu la chance, cette journée-là, de pouvoir en parler avec Jérôme Bobin, qui est directeur de Handicap International Canada. Et il nous a fait part de cette inquiétante augmentation du nombre de ces victimes de mines antipersonnelles, artisanales, beaucoup plus qu'autre chose. Je vous laisse le soin d'écouter ça. Je reçois le directeur de Handicap International Canada qui a eu la gentillesse de se déplacer en studio. Bonjour Jérôme Bobin.
Bonjour Clotilde.
Écoutez, je suis heureuse de vous voir, mais je suis moins heureuse des nouvelles qui nous sont colportées en ce moment. Je parle de cette augmentation historique du nombre des victimes de mines et de restes explosifs de guerre dans le monde après 15 ans de baisse. Voilà que tout d'un coup ça remonte drastiquement. On s'attend à votre réponse, mais quand même, on peut attribuer cela à quoi, Jérôme?
Alors, en effet, ça remonte. Ça a commencé à remonter en 2014. Et là, c'est vraiment très impressionnant cette année. On est quasiment au double du nombre de victimes par année. Donc, on est passé de 3700 victimes à 6500, quasiment. Et ce qui est inquiétant, c'est que... C'est à la fois inquiétant et presque réjouissant, j'ai envie de dire, mais je vais vous expliquer. Ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, s'il y a plus de victimes, c'est qu'il y a plus de conflits, basiquement, et on le sait tous, on les voit, on les lit, on les lit dans la presse régulièrement, que ce soit en Syrie, que ce soit en Ukraine, que ce soit toujours en Afghanistan, en Libye, au Yémen. Tous ces conflits-là, actuellement, font des victimes de mines antipersonnelles. Et puis, ce qui serait presque réjouissant malgré tout, c'est qu'en fait, c'est la qualité de la collecte de données qui s'est améliorée. Oui. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus pointu et pointilleux sur la collecte de données et donc on peut mieux témoigner et donc dénoncer ce qui arrive.
Mais excusez-moi de vous interrompre, parce que ça veut dire que peut-être qu'il y a quelques années, on n'était peut-être pas aussi pointu et qu'on n'avait peut-être pas le chiffre exact.
Eh bien, tout à fait. Alors, les organisations humanitaires comme Handicap, mais comme les autres, ont toujours dit, affiché des chiffres en disant « mais attention, c'est bien loin de la réalité, on a beaucoup d'endroits où on n'accède pas à la donnée ». Donc là, ça s'améliore aussi. Donc ça donne une image plus claire, même si elle est plus sombre et plus dramatique, mais plus claire de la situation.
Et puis, au témoin d'un doute, parce qu'il y a les armées étatiques, hein, les armées, bon, mais celles-ci utilisent de moins en moins de ces produits-là. Mais il y a les groupuscules qui, elles, en utilisent beaucoup.
Oui, en effet, c'est le problème des conflits actuels de ces dernières années, c'est que finalement, on n'est plus forcément face à des armées régulières qui sont soumises aux droits de leur État. Et donc, la majeure partie des États ayant signé le traité d'Ottawa contre les mines antipersonnelles, les armées sont soumises à ne pas utiliser les mines. Mais à l'inverse, de plus en plus de groupes armés, plus ou moins institués, plus ou moins organisés, qui utilisent des mines antipersonnelles. Et une autre information importante, c'est que les mines elles-mêmes ont changé au fil des années. Avant, on parlait de mines industrielles, donc qui étaient produites par des grandes usines, des fabriques traditionnelles. De plus en plus, on parle de mines artisanales. Donc créées avec n'importe quoi. Du coup, ça fait énormément de dégâts sur la population civile.
Alors, vous nous parliez de ce traité d'Ottawa. La 15e conférence des États partie au traité d'Ottawa, qui interdit les mines personnelles, a débuté hier à Santiago du Chili. On parle de quoi exactement ?
Alors, ces conférences, elles ont lieu tous les ans et elles réunissent en fait les États qui ont signé le traité d'Ottawa. Donc, le traité, je le rappelle, qui a été créé en 1997 à l'initiative du Canada pour interdire les mines antipersonnelles. Actuellement, on parle de 162 pays qui ont ratifié ce traité, donc qui sont soumis aux obligations d'interdire les mines, de dépolluer les territoires, d'aider les victimes. Donc, ces conférences-là, elles permettent à ces États de se réunir pour faire un état de l'avancement du traité, des obligations du traité, et puis aussi aux États qui n'ont pas signé, de faire partie de la discussion, de voir un peu comment ces États-là pourraient rejoindre le traité d'Ottawa, et puis les acteurs humanitaires comme nous, qui nous réunissons et qui portons la voix des victimes, parce que finalement, notre combat quotidien, il se passe auprès des victimes sur le terrain, et ces conférences sont l'occasion de porter cette voix-là.
Il y a beaucoup de représentants de ces États-là qui ne sont pas encore, qui n'adhèrent pas encore à ce programme-là.
Alors,
Il y a vraiment un intérêt de ces gens-là. Ils se déplacent à cette conférence.
Pas tous. On a une bonne vingtaine d'États qui refusent.
C'est déjà pas mal.
Qui refusent de venir. Et en fonction des conférences, on va parler de 10 à 15 représentants de ces 20 États qui viennent, qui prennent la parole, qui écoutent beaucoup ce qui se dit et qui surtout regardent comment on met en œuvre le traité. Parce que le traité, au final, peu d'États seront contre l'esprit du traité. Je vous rappelle, interdire une arme barbare, il y a peu d'États contre ça. C'est plutôt sa mise en œuvre qui est difficile.
Bien sûr. Alors, quel genre de solutions vont être mises de l'avant ?
Alors, chaque année, une fois de plus, cette conférence, c'est l'occasion à la fois de mettre les bonnes pratiques en lumière et de dire à un État affecté, de montrer ce qui peut être fait. Nous, Handicap International, on va beaucoup pousser sur l'assistance aux victimes. Le traité d'interdiction des mines antipersonnelles, il impose l'éducation des populations au risque, il impose le déminage et il impose l'assistance aux victimes.
Oui.
Et pourquoi c'est important pour nous, Handicap International, et vous allez voir que c'est aussi important pour vous ici qui nous écoutez, c'est qu'en fait, l'assistance aux victimes, c'est une manière de faire respecter aussi la Convention sur le droit des personnes en situation de handicap. Et bien souvent, dans les pays où on fait de l'assistance aux victimes, en travaillant avec les victimes de mines antipersonnelles en premier, on va permettre aux personnes handicapées dans leur ensemble du pays en question de bénéficier d'un accès aux services, d'une reconnaissance, d'une réparation. Donc, bizarrement et heureusement, le traité d'Ottawa et son volet d'assistance aux victimes nous permet de faire avancer la cause de toutes les personnes en situation de handicap dans des pays où il n'y aurait pas les moyens habituellement de faire ça.
Ce traité-là, il a une vingtaine d'années.
Oui.
Et il n'est pas désuet, il n'est pas obsolète, il n'est pas... Non.
Malheureusement, on le voit bien le nombre de victimes. On parle toujours de 64 pays qui sont pollués. Et dans ces 64, 61 ont connu des victimes. Donc, quand on est un pays pollué, on n'est pas un pays qui s'endort sur ses mines antipersonnelles. Elles sont actives, elles font toujours des victimes.
On va se laisser là-dessus. Jérôme Bobin, je vous rappelle que vous êtes directeur de Handicap International Canada. Vous souhaitez lancer un appel aux États-Unis et aux autres pays, justement.
Alors voilà, les pays qui n'ont pas signé, parmi les plus grands pays, les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Iran, Israël.
Oh,
Les États-Unis avaient fait un pas l'année dernière en disant qu'ils étaient pas loin d'arriver enfin à pouvoir signer le traité d'Ottawa. On ne sait pas ce qui va se passer désormais, que le gouvernement va changer. Mais il est évident qu'on a besoin, on a tous besoin, toute la planète a besoin que ces grands pays, et dont les États-Unis, rejoignent ce traité. Il faut noter par contre que les États-Unis sont le financeur le plus important de la lutte anti-mine. Ils n'ont pas rejoint le traité, mais ils ont donné des années énormément d'argent au déminage.
Oh, le temps nous manque, mais l'arrivée de Trump, là-dedans.
Écoutez, on va se laisser le temps de regarder, voilà, et de juger sur pièce.
Oui, c'est ce que tout le monde nous dit. Merci beaucoup. Je vous rappelle que je m'entretenais avec Jérôme Bobin, directeur de Handicap International Canada. Merci pour tout ce que vous faites, Jérôme.
Merci.
Au revoir. Si comme moi, vous avez été touché par ces chiffres effrayants, vous pouvez faire un don à www.handicap-international.ca. Alors ainsi s'achève cette émission, le National du 2 décembre 2016. Clotilde Seille au micro de Canal M, qui voudrait remercier très très fort toute l'équipe qui travaille beaucoup toutes les semaines pour vous informer, pour vous distraire, pour vous soutenir aussi. Alors merci à toutes et à tous, Mathieu, Jean-Sébastien, Marianne, Louise, Christiane et Anne-Laure. C'était Clotilde Seille qui vous dit... Bonne fin de semaine.